Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce troisième débat des Rancards du Savoir organisé par l'Université de Bordeaux. Ce soir, nous allons aborder une thématique houleuse qui a déchaîné les passions et qui pose aujourd'hui encore beaucoup de questions, la loi El Khomri ou loi travail. Les premières images qui nous viennent à l'esprit, je pense, quand on entend loi travail, ce sont celles des manifestations. De mars 2016 à septembre dernier, il y a eu un enchaînement de grèves et de défilés qui sont multipliés et qui ont été amplement médiatisés. Et pour cause, elles ont été largement suivies. Alors on ne va pas trop s'attarder sur des chiffres, puisque si par exemple on prend une des plus importantes, celle du 14 juin, il y a eu, vous allez être surpris, 600 000 manifestants selon les syndicats dans toute la France pour 100 000 manifestants selon la police. Donc on a l'habitude de ces estimations, on ne peut plus objectives. Mais je pense qu'une des images aussi importantes qui nous reste par rapport à ces manifestations, c'est surtout la violence de celles-ci. Et l'actualité nous empêche d'une certaine manière de l'oublier, puisque par exemple, il y a 4 jours, a débuté le procès du policier qui avait cogné fortement un des manifestants au visage. Ou encore, de l'autre côté, il y a 5 jours, ou mercredi dernier plus exactement, 6 manifestants qui avaient participé à l'occupation des locaux du MEDEF ont été convoqués au tribunal pour être jugés pour dégradation aggravée. Donc on voit comme ça une multitude de faits qui reviennent au niveau de la violence de ces manifestations. Mais il faut aussi penser que derrière ces événements, il y a un texte de loi, il ne faut pas l'oublier. Et justement, qu'est-ce que nous évoque cette loi en elle-même ? Alors certains diront que c'est une loi qui offre plus de flexibilité aux entreprises, plus d'autonomie aux salariés, d'autres que c'est une loi qui est synonyme de précarité, d'autres encore qu'elle ouvre à plus de licenciements, etc. Il y a des conclusions hâtives ou alors fruit d'une longue réflexion, mais en tout cas souvent on pense cette loi par rapport au point qui nous touche le plus directement. Et je pense que ça serait intéressant justement ce soir d'aborder la loi, pas simplement au niveau de la partie émergée de l'iceberg, mais dans son ensemble, en s'intéressant également à tout son contexte et à ses conséquences au niveau du travail. Donc on ne va pas essayer de développer un argumentaire pour ou contre la loi El Khomri, mais plutôt de s'interroger sur son origine, comprendre ce qu'elle nous dit sur l'évolution de la politique actuelle du travail, mais aussi de façon plus large du contexte économique, social, politique dans lequel elle est née, au final, et également de décrypter comment elle a pu cristalliser un ensemble de tensions, un malaise qui était déjà présent, au final. Donc voilà, il y a une multitude d'angles avec, par lesquels on peut aborder cette loi travail. Et on va croiser 3 regards experts pour s'interroger dessus. Celui de Christophe Radet, de Michel Cabanne et de Jean Vanneau. Je vais vous laisser vous présenter.
Donc Jean Vanneau, je suis psychologue du travail, et plutôt d'origine psychosociologue du travail. Voilà, alors très rapidement, je fais de la psychologie du travail depuis 27 ans auprès de publics cadres, managers. Et depuis 10 ans, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux. Mes objets de recherche concernent les problématiques d'articulation entre les logiques individuelles, les intérêts individuels et les intérêts de l'entreprise et tout ce qui fait hiatus, problèmes, problématiques dans ces types d'articulations-là. J'ai plutôt une entrée multiréférentielle en sciences humaines autour de ces objets et autour de la façon dont, au fond, les travailleurs, les employés, les cadres s'adaptent de façon contrainte ou de façon active aux modalités gestionnaires aujourd'hui du monde du travail et des modes d'organisation.
Michel Cabanne, moi j'étais maître de conférence à Aix-Bordeaux 4 en économie et je travaillais surtout sur les politiques économiques comparées et également sur les finances publiques, y compris au niveau local. Voilà.
Christophe Radet, je suis professeur de droit du travail, notamment à la faculté de droit de Bordeaux. Je suis aussi le conseiller scientifique des éditions Dalloz, petit livre rouge pour ceux qui connaissent les maisons d'édition du Code du travail. Et j'ai parmi d'autres activités celle de formateur et aussi de conseil, puisque je suis le conseiller scientifique d'un cabinet plutôt employeur, mais je ne suis pas avocat d'employeur, je suis dans mon rôle de juriste, analyste, observateur, commentateur de l'actualité juridique.
Merci. Alors, pour débuter, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler au préalable quels sont les points principaux de cette loi travail sans qu'on rentre pour l'instant dans l'analyse ?
Alors, il faut peut-être commencer par le début. Hein, la loi El Khomri, ou loi travail du 8 août, elle est issue surtout d'un rapport, qui est le rapport Combrexelle, Jean-Denis Combrexelle, qui était le directeur général du travail, donc le plus haut fonctionnaire de l'administration française en droit du travail, conseiller d'État, et qui est maintenant le président de la section sociale du Conseil d'État. Donc, c'est parti d'une réforme, allez, on va dire des gros mots tout de suite, technocratique. Et c'est une réforme qui a été poussée par le gouvernement sans véritable participation préalable des partenaires sociaux. Voilà. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le processus est finalement aussi mal engagé. C'est que, contrairement aux réformes qui ont été adoptées notamment en 2008 et en 2013, qui ont été précédées par la participation active des partenaires sociaux, le changement de Premier ministre, et l'arrivée d'une nouvelle équipe gouvernementale s'est traduit par un certain dirigisme politique. Et les réformes les plus récentes, on pense notamment aux deux lois de 2015 et à la loi travail, sont des lois qui ont été, je ne vais pas dire imposées, en tout cas qui ont été votées à l'initiative du gouvernement et dans un objectif de fluidification du marché du travail. L'idée étant que si la France a autant de mal aujourd'hui à retrouver le chemin de la croissance et de l'emploi, c'est parce qu'elle souffre d'un certain nombre de pesanteurs, notamment juridiques, qui empêcheraient, et je mets le conditionnel puisque je relaie un discours qui n'est pas forcément le mien, mais qui n'est ni le mien ni pas le mien, qui est le discours qui porte la loi El Khomri, des pesanteurs juridiques qui empêcheraient les entreprises d'innover, de créer, d'embaucher, de licencier. Bref, il y aurait des freins, notamment des freins juridiques, et donc il faudrait que ces freins soient, si ce n'est supprimé, en tout cas allégé considérablement. Ça, c'est vraiment le discours qui porte cette loi. Hein. C'est moins de normes et plus de liberté. Et ce discours, il se traduit également par un changement dans la manière de considérer la production du droit du travail. Le droit français est d'une tradition plutôt étatique et plutôt nationale. Et l'idée de la loi El Khomri, pour vraiment simplifier le discours, c'est de transférer une partie des compétences d'élaboration de la norme du travail vers les entreprises. Donc il y a un double mouvement du droit étatique vers le droit négocié et du droit national vers le droit local. Et donc il s'agit de faire en sorte que la loi soit moins présente, moins contraignante, et de laisser plus de marge de manœuvre aux syndicats et aux employeurs dans les entreprises. L'idée étant que plus on se rapproche du terrain, plus on se rapproche des réalités économiques et sociales, plus la norme sera adaptée, plus elle sera pragmatique, et plus elle permettra à l'entreprise de s'ajuster, notamment aux besoins du marché. Donc on est vraiment dans une logique, alors je parle sous le contrôle de l'économiste, hein, mais sur une logique néolibérale, c'est-à-dire que l'on croit dans les vertus de la régulation par les acteurs. On pense que c'est de cette régulation par les acteurs que l'économie française, la société française, va pouvoir redémarrer et retrouver le chemin de la croissance et de l'emploi. Alors, on a commencé, donc, il faut savoir que la loi El Khomri, c'est le premier acte d'une grande réforme du Code du travail, une réforme au fond. Cette loi, c'est la première partie. On a commencé par les deux secteurs qui étaient les plus « urgents » entre guillemets à réformer, la négociation collective, c'est-à-dire la méthode, hein, et la durée du travail, puisque la durée du travail a toujours été, depuis 1982, le secteur d'expérimentation par excellence des réformes du droit du travail. C'est là où on considère, en matière notamment d'organisation du travail, qu'il faut donner plus de souplesse aux entreprises, c'est-à-dire ne pas imposer de schémas préfabriqués et permettre aux entreprises de se choisir des règles de fonctionnement qui soient les plus adaptées aux besoins et aux possibilités des uns et des autres. Voilà le contexte, si j'ose dire, dans lequel s'inscrit cette loi El Khomri.
Au niveau de ce contexte, est-ce qu'on peut dire que c'est une trajectoire qui se dessinait déjà, ou est-ce qu'au final, c'est un virage assez brutal par rapport à ce qu'il y avait auparavant ?
Non, c'est le prolongement finalement logique des réformes qui ont été pour partie voulu par les partenaires sociaux et engagé depuis 15 ans, notamment ce mouvement d'autonomisation progressive des entreprises. C'est un mouvement de fond. Et le transfert d'une partie des compétences du législateur vers les partenaires sociaux, ça fait également partie des mouvements, des lames de fond qu'on peut constater dans le droit du travail depuis au moins une dizaine d'années. Il y a eu toute une série de réformes qui ont été adoptées avant la loi El Khomri, notamment la grande réforme de 2008, qui a réformé la représentativité syndicale, donc les critères qui permettent de désigner parmi les syndicats ceux qui sont notamment habilités à négocier et conclure les accords. Et donc, on a d'abord relégitimé les acteurs en faisant la réforme des règles de désignation des syndicats représentatifs. Et une fois qu'on a eu relégitimé les acteurs, la suite logique, c'était la loi El Khomri, c'est donner plus de compétences à des acteurs plus légitimes. Donc c'est vrai que les spécialistes et tous ceux qui suivent d'ailleurs de manière générale l'évolution du droit du travail, les praticiens, les syndicalistes, etc., tous ceux-là, finalement, ne pouvaient pas être surpris par la loi puisqu'elle est, dans une certaine mesure, dans la continuité des réformes précédentes. Ce qui a changé, c'est peut-être la méthode. Puisque, je le répète, depuis la loi Larcher de 2007, la règle, et d'ailleurs les articles figurent en tête du Code du travail, la règle, c'est que les grandes réformes sociales devaient être précédées par une négociation nationale interprofessionnelle dans laquelle les syndicats et les organisations patronales se saisissaient de la réforme et élaboraient des propositions que le gouvernement reprenait peu ou prou. Mais en tout cas, il y avait une sorte de navette entre l'initiative de la réforme par le gouvernement, la négociation par les partenaires sociaux, puis ensuite, le gouvernement reprenait la main et le Parlement faisait son travail de législateur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la loi El Khomri est passée assez rapidement du statut de projet élaboré par le directeur général du travail sur le bureau de l'Assemblée nationale en zappant très rapidement la phase de concertation préalable, ce qui sans doute d'ailleurs explique en grande partie le sentiment d'avoir été un peu les dindons de la farce qu'ont éprouvé un certain nombre de centrales syndicales qui, par ailleurs, pouvaient avoir des raisons de fond de s'opposer à ce mouvement de transfert des compétences vers les entreprises. Voilà. Donc il y a à la fois une question idéologique. C'est une réforme qui correspond, pour reprendre l'expression d'Alain Supiot, à l'agenda néolibéral des années 80. Et des réformes, des raisons plus politiques, plus conjoncturelles, qui sont liées à la manière peut-être un peu forte, un peu autoritaire, avec laquelle le gouvernement a décidé d'engager, de conduire et d'achever la réforme.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire quand vous parlez d'agenda néolibéral, un petit peu plus précisément ?
C'est-à-dire que la loi El Khomri, elle s'inscrit dans un contexte que le gouvernement appelle la refondation sociale. La refondation sociale, c'est encore une fois, c'est un État dans lequel le législateur est modeste, donc il n'y a pas d'interventionnisme à outrance de l'État, et où on laisse les acteurs sociaux s'organiser avec donc des marges de liberté, d'initiative, avec cette croyance que de cette liberté laissée aux acteurs va naître le progrès social. Et ça, c'est quand même une rupture assez importante, en tout cas dans, j'ose pas appeler l'idéologie de gauche parce que le terme est un peu fort, mais en tout cas, il y a eu une conversion idéologique d'une partie de la gauche gouvernementale à ces valeurs-là. Et on voit bien le paradoxe qu'il y a à voir un président de la République, dans sa campagne, par exemple, nous dire « mon ennemi, c'est la finance », et se choisir, comme ministre de l'économie, quelques mois plus tard, un banquier issu de Rothschild. Et le paradoxe, c'est pas un paradoxe, c'est un changement de cap politique qui a été opéré en cours de mandat par le président de la République. Mais c'est un changement de politique gouvernementale qui s'inscrit aussi dans un courant de modernisation, si j'ose dire, de la pensée économique de gauche. Voilà. Il y a des économistes qui se réclament de la gauche politique qui ont porté cette réforme. Autrement dit, Ce discours consistant à dire qu'il faut laisser plus de marge et plus d'initiative aux acteurs pour produire plus de progrès, c'est un discours qui était porté par, on va être encore une fois schématique, par la droite libérale dans les années 80, et qui a fini par convaincre une partie de ceux qu'on qualifiait d'économistes de gauche, y compris d'ailleurs des économistes extrêmement réputés, « nobelisés », entre guillemets. Il n'y a pas que les économistes néolibéraux de la droite classique qui ont porté cette réforme. Ça, ça correspond, encore une fois, à un souffle libéral qui a fini par souffler, y compris en dehors du réceptacle naturel de la pensée libérale. Et peut-être que Michel Cabanne pourra être un peu plus précis sur cette
question. Tout à fait d'accord. La doctrine néolibérale considère que lorsque la souplesse règne sur les marchés, on obtient plus facilement l'équilibre. Et en plus, on peut procéder davantage à des innovations, etc. Donc, cette doctrine qui a émergé dans le monde occidental développé d'un point de vue pratique à la fin des années 70, elle existait dans les universités, mais ils étaient marginaux à l'époque. Cette doctrine qui l'a emportée avec la victoire de Reagan, la victoire de Madame Thatcher, elle s'est progressivement répandue sur le continent européen avec des variantes moins extrêmes, en Allemagne, dans un certain nombre d'autres pays. Et elle a progressivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, progressivement influencé des gouvernements et leurs conseillers qui n'étaient pas uniquement des gouvernements de droite ou des conseillers de droite. Et c'est très net depuis 2012, le quinquennat de François Hollande. Alors, pendant longtemps, cette doctrine, elle a eu des applications dans d'autres domaines que le marché du travail. Il y a eu les privatisations, il y a eu la déréglementation des monopoles publics, il y a eu le développement de l'économie de l'offre, c'est-à-dire que chaque pays cherche à minimiser les coûts de production pour être plus compétitif, et parmi les coûts de production, notamment le coût du travail, à la fois dans la composante salaire et dans la composante cotisation sociale. Et pendant les années 80-90, c'est surtout ces autres aspects du néolibéralisme qui ont connu une concrétisation progressive dans le monde occidental développé. Et puis, on arrive au XXIe siècle et progressivement, on a cherché à étendre le néolibéralisme dans le domaine de l'État social, la protection sociale, réduire l'importance de l'État-providence dans l'économie, et également dans le domaine de la gestion de la législation du travail. Ce sont des domaines beaucoup plus litigieux, parce que faire des privatisations, faire de la déréglementation des monopoles publics, etc., ça ne soulevait pas forcément des oppositions politiques, des oppositions sociales. Par contre, lorsqu'on commence à s'attaquer soit à la protection sociale, soit à la législation du marché du travail, ça concerne la vie quotidienne d'une partie importante de la population. Ce qui explique les difficultés pour le néolibéralisme à progresser dans ces deux domaines. Et alors manifestement, la loi El Khomri s'inscrit dans cette volonté du gouvernement de rapprocher l'organisation française du marché du travail d'un certain nombre d'autres pays. Alors là, je crois qu'il y a certaines idées reçues qui ne sont pas forcément valables. Disons que la protection des salariés en France, en moyenne, elle est supérieure à la protection des salariés dans un certain nombre d'autres pays, mais ça varie suivant la nature des contrats. C'est beaucoup plus pour les CDD, par exemple, que pour les CDI. Bon, il y a un certain nombre d'autres choses qu'il faudrait développer, mais en tout cas, la thèse d'après laquelle plus de flexibilité du marché du travail, c'est le moyen de résoudre les problèmes d'emploi, cette thèse ne fait pas consensus parmi les économistes. Il faut quand même bien le savoir. Et il y a des travaux économétriques repris
notamment par l'OCDE, qui ont amené l'OCDE, l'OCDE, on ne peut pas considérer que c'est un repère de gauchistes, à dire que le lien entre la flexibilité du marché du travail, sous diverses formes, hein, flexibilité interne, flexibilité externe, et les performances au niveau de l'emploi, ce lien, il est tout à fait incertain au niveau économétrique. L'économétrie, c'est de l'économie mathématique et statistique, c'est l'utilisation de certaines régularités statistiques pour voir s'il y a éventuellement derrière les corrélations des causalités ou pas. Bon. Et là, ce qui est quand même remarquable, c'est que le gouvernement français, en dépit de ses origines politiques, quoi, de sa situation politique, il a adopté les conceptions du lien entre la flexibilité du marché du travail et l'emploi, les conceptions qui sont purement et simplement les conceptions d'un certain nombre d'économistes, mais purement néolibéraux. Alors c'est étonnant, et en tout cas ce qui est sûr, c'est que les salariés ont été pris, les syndicats, ils ont été pris à contre-pied. Alors encore un mot.
Simplement juste revenir sur, vous avez parlé de flexibilité interne et flexibilité
externe. Flexibilité externe, c'est la possibilité, en gros, de licencier sans difficulté, de changer de travail d'une entreprise à l'autre, etc. La flexibilité interne, ça n'implique pas de changement de la situation du salarié, il reste dans son entreprise, mais on adapte. Eh bien, le temps de travail, on adapte les conditions de travail, on adapte un certain nombre d'éléments. Bon, voilà. Disons que la flexibilité interne est moins traumatisante pour les salariés que la flexibilité externe. Et un dernier point que je voulais développer, c'est la question de la décentralisation des négociations. Alors, le mot décentralisation, c'est un mot qui a une connotation très positive. Mais lorsqu'on regarde la nature de la décentralisation, les points litigieux de cette loi, les points litigieux, c'est le rôle respectif de l'entreprise, de la branche et de la loi. C'est la fameuse inversion des normes. Mais la possibilité d'avoir des accords d'entreprise auparavant, elle existait, à condition que les accords d'entreprise soient meilleurs pour les salariés que les accords de branche. La nouveauté, ce n'est pas véritablement la décentralisation. La nouveauté, c'est la possibilité que les accords d'entreprise ne soient plus aussi favorables que les accords de branche. Même chose sur d'autres aspects, le relèvement des plafonds concernant le temps de travail, l'extension des aménagements de salaire, de durée de travail, des seuls accords défensifs, c'est-à-dire la possibilité pour les entrepreneurs d'obtenir un certain nombre de concessions des salariés pour se défendre par rapport à la compétition internationale en cas de difficulté économique de l'entreprise. Avec la loi travail, on étend cette possibilité aux accords offensifs, c'est-à-dire possibilité pour les entrepreneurs d'imposer en quelque sorte aux salariés des modifications concernant les salaires ou concernant le temps de travail pour conquérir des marchés, ce qui étend. Enfin, il y a toute une série de dispositions qui ont posé problème finalement dans cette loi, parce qu'il y a des aspects positifs pour les salariés aussi, il ne faut pas le nier. Mais ce dont je suis en train de parler, manifestement, ça veut dire qu'il y a la possibilité de certaines régressions de la situation des salariés dans le cadre de l'entreprise. C'est quand même ça la nouveauté, à mon avis, plus que la décentralisation, mais qui, évidemment, a une connotation décentralisation très positive.
Je ne suis pas sûr qu'on puisse accuser l'Europe de tous les maux, et je pense qu'il faut qu'on assume aussi notre part de responsabilité nationale, c'est-à-dire que si on prend l'exemple de la durée du travail, par exemple, qui est quand même l'un des deux points principaux de la réforme El Khomri, il y a effectivement des directives de l'Union européenne, et notamment une directive sur le temps de travail, mais qui est une directive qui s'intéresse essentiellement à la question de la réglementation des durées maximum de travail. C'est-à-dire, on ne peut pas travailler plus de 48 heures par semaine, par exemple. L'Union européenne et le droit de l'Union européenne n'exerce pas une contrainte si forte que ça sur le droit national. L'Union européenne met en place un certain nombre de règles planchers, mais la France a une tradition d'aller au-delà des règles qui sont posées par l'Union européenne. Alors après, on peut effectivement considérer que globalement, l'Union européenne, qui est quand même née d'une logique de marché, de l'idée qu'il fallait permettre la circulation des personnes et des marchandises, a été construite sur un modèle libéral, et on pourrait considérer que ce modèle libéral est contaminant pour la situation nationale. Mais en tout cas, je pense qu'il serait un peu excessif de dire que la loi El Khomri, elle est dictée par l'Europe. Elle n'a pas été dictée par l'Europe.
Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ajouterais que les thèses au niveau européen, les thèses de la Commission, sont tout de même validées en permanence par le Conseil européen des chefs d'État. C'est-à-dire que la Commission applique des orientations qui ont été définies par les chefs d'État de l'Union européenne. Mais c'est vrai que la Commission a fait des propositions qui allaient dans ce sens. Alors là, il faut bien dire que les choses se sont un peu précipitées depuis la crise, depuis la crise de 2008-2009. C'est-à-dire que depuis la crise de 2008-2009, il y a un resserrement des conceptions européennes, mais qui en même temps sont les conceptions de la plupart des gouvernements des pays membres de l'Union européenne. C'est ça qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. Un resserrement autour des conceptions qui ne sont pas forcément ultra-libérales comme l'étaient les thèses de Reagan ou de Thatcher, mais qui sont marquées par une doctrine qui, à mon avis, fait partie du néolibéralisme, mais qui est moins extrême que l'ultralibéralisme de Friedman ou de Hayek. Hein, je parle d'économistes qui sont décédés maintenant, mais qui ont beaucoup marqué l'ultralibéralisme. L'ordolibéralisme est axé essentiellement sur la croyance dans les bienfaits de la concurrence, et dans tous les domaines, de la concurrence dans tous les domaines, y compris le marché du travail. Quand on parle de la décentralisation des négociations sur le marché du travail, c'est un moyen de développer les mécanismes de la concurrence entre les entreprises qui ont des effets sur le contenu des négociations salariales. En arrière-plan, il y a cette croyance fondamentale dans les bienfaits de la concurrence, à la fois pour l'équilibre et pour la croissance ou l'innovation, enfin, d'un point de vue dynamique. Voilà ce que je voulais dire. Et les choses se sont précipitées depuis la crise, parce que depuis la crise, il y a eu la crise de la dette publique qui a généré un resserrement des dispositions concernant l'encadrement des politiques budgétaires, mais en même temps, il y a eu une revalorisation des thèses néolibérales en général, d'après lesquelles il faut que les marchés du travail soient le plus flexibles possible. Et là, il suffit de voir les prescriptions de ce qu'on appelait la Troïka, hein, FMI, Commission et Banque Centrale Européenne, dans ces rapports entre cette Troïka et les gouvernements du sud de l'Europe, qui ont été en difficulté, et c'est le moins qu'on puisse dire, comme la Grèce, comme le Portugal ou l'Irlande, enfin, périphérie, c'est pas le sud, ou l'Espagne. Et on retrouve dans les prescriptions de la Troïka, à chaque fois, on retrouve un certain nombre de mesures structurelles, privatisation, etc., mais aussi des mesures concernant la flexibilité du marché du travail. C'est vraiment une orientation dominante et qui s'est, me semble-t-il, accentuée depuis l'amoncellement des difficultés suite à la crise de 2008-2009.
Juste un mot aussi pour préciser que les économistes qui portent la réforme, lorsqu'on leur a demandé s'ils étaient satisfaits ou pas par le résultat, ils ont dit « c'est bien, mais ça ne suffit pas ». Donc en réalité, on est dans une logique où ils ont salué le premier pas fait dans la bonne direction. Mais si on prend par exemple les écrits de Jean Tirole, que je citais implicitement à propos de la nobélisation de l'économie, les écrits de Jean Tirole qui, par certains aspects, ont inspiré certains éléments de la réforme, sont beaucoup plus complexes et vont beaucoup plus loin que la simple libéralisation. C'est-à-dire que l'idée aussi, on n'a pas parlé encore de flexi-sécurité parce qu'on pourrait y revenir, mais l'idée aussi, c'est que si on donne plus de liberté aux entreprises, et notamment si on permet, ce que ne fait pas la loi El Khomri, hein, si on permet de licencier plus facilement les salariés, la loi El Khomri ne dit rien sur le, ou quasiment rien sur le licenciement, donc ce n'était pas le sujet, il faut qu'en contrepartie de ça, on accorde des garanties supplémentaires aux salariés. Alors c'est le cas de la loi d'ailleurs Travail sur la fusion des comptes, notamment pour simplifier le compte personnel d'activité, qui regroupe un certain nombre de comptes existants. Donc voilà, on donne plus de liberté, mais ça n'est pas que de la liberté. C'est plus un changement de système et un changement de logique, c'est-à-dire on donne plus de fluidité dans la circulation de la main-d'œuvre, comme on donnerait de la fluidité dans la circulation des marchandises. Mais en contrepartie de cette fluidité, on donne plus de garanties aux salariés pour que, par exemple, lorsque vous perdez votre emploi, vous partiez en formation de manière à pouvoir acquérir de nouvelles compétences ou conforter les autres. Alors, il y a une dimension dont ne parle pas la loi El Khomri, mais on peut en parler avec le psychologue du travail, c'est la dimension qualitative. C'est-à-dire que l'une des critiques qui est faite à cette conception néolibérale du travail, c'est de traiter quand même le travail comme une sorte de marchandise, de s'intéresser beaucoup aux données quantitatives, notamment sur la durée du travail, avec une difficulté ensuite pour continuer à penser le travail comme autre chose qu'une marchandise et de réfléchir sur l'impact de tout cela sur la qualité du travail, sur la santé, sur la charge de travail, sur le bien-être des salariés, sur un certain nombre de données qui ne sont pas quantifiables. Et c'est vrai que ces aspects-là, qui avaient été très présents les années précédentes au travers de la réflexion sur le risque psychosocial, le harcèlement, le burn-out, sur la question de la qualité de la vie au travail, eh bien, tout d'un coup, on s'est arrêté de parler de tout ça. On avait suspendu ce mouvement d'une recherche qualitative pour se concentrer uniquement sur des données quantitatives. Et là, on peut y voir quand même une certaine emprise du discours économique sur le droit du travail, parce qu'on est effectivement dans des logiques de marché, des logiques effectivement de concurrence, d'abaissement du coût, d'augmentation de la durée, etc. Et là, c'est vrai que l'aspect qualitatif, qui avait été très présent ces dernières années, a subitement disparu comme par enchantement du discours politique.
En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que ces aspects purement en dimension économique et financière sont devenus centraux dans la conception du rapport au travail, dans la conception même du travail. Il y a donc une évolution flagrante depuis, mais c'est pas hier, ça fait 30 ans, 40 ans que ça se construit progressivement. Et aujourd'hui, je dirais que le résultat de ce qu'on appelle la loi travail, c'est pas du tout une loi sur le travail ou pour le travail, pour ou contre, ça parle pas du tout du travail. Ça parle de l'emploi, c'est-à-dire uniquement des dimensions gestionnaires. Par contre, le travail en lui-même, ces dimensions qualitatives, comme vous dites, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le travail à la fois sur le plan du contenu, des techniques, des apprentissages, mais aussi du contenant, c'est-à-dire des facteurs d'hygiène, des facteurs de conditions de travail, est complètement rabattu uniquement sur les seules logiques économiques et financières. Et c'est ça qui, je pense, a mis beaucoup de gens dans la rue, dans les manifestations, d'une part, a généré aussi le mouvement Nuit Debout, c'est-à-dire le fait de remettre au centre de la réflexion, justement à propos de ce qui entoure le travail, des lois, des règles, qu'est-ce que c'est le travail aujourd'hui, au XXIe siècle, dans une société néolibérale, au vu des enjeux beaucoup plus larges, des enjeux civilisationnels que nous avons. Et je crois que c'est ce qui préoccupe énormément les jeunes. Alors quand je dis les jeunes, c'est tous ceux qui sont jeunes dans leur tête. C'est pas uniquement une question d'âge. Je pense que ce qui est dramatique, c'est qu'on voit là un détricotage de la conception même de ce qu'est la fonction psychologique, la fonction psychosociale, la fonction culturelle, la fonction émancipatrice du travail.
Et ce qui fait que, alors moi je parle du point de vue d'un psychologue du travail, ce qui fait que le travail était un facteur de développement de l'humanité, de l'humanisation, de l'humain dans toutes ses dimensions, devient un facteur de rapport productif. Alors, sur le plan quantitatif, économique, ça peut avoir des intérêts. Par contre, il est clair que ça va faire énormément, et ça commence à faire, et ça fait de très nombreuses années que ça fait beaucoup de dégâts sur le plan, je dirais, de la construction de la société, hein, globalement. D'un point de vue psychologique et psychosocial, ce qui n'est pas rassurant dans la flexibilité, c'est quand elle est contrainte. Quand elle est choisie, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est un facteur et un indice de l'autonomie de la personne. Quand elle est uniquement contrainte par des considérations financières, économiques, d'adaptation, hein, très pragmatique aux lois du marché, quand elle ne permet pas aux personnes de construire leur développement à travers l'apprentissage d'un objet, d'une technique, qui sont dans des rapports complexes, mais qui sont dans des rapports toujours sociaux, collectifs, interindividuels. Quand vous pouvez... Alors, on parle de flexibilité externe, bon, être licencié du jour au lendemain pour des causes économiques, mais aussi changer de poste, changer en interne. On casse tout un tas de régulations, d'apprentissage, de structuration du travail, du rapport au travail, des rapports de travail, qui se sont construits lentement, patiemment, entre personnes, dans des collectifs, et qui sont l'enjeu même de la qualité, quand même, hein, du travail. Hein. Ça touche la qualité du travail. Pourquoi les professionnels de santé sont dans la rue aujourd'hui ? Bon. Quand je dis ça fait 30 ans, c'est une lente évolution. Ça a commencé au début des années 80. Je me rappelle, quand nous étions étudiants, on apprenait la qualité totale. C'était le début de la qualité totale. Bon, aujourd'hui, on parle de lean management. C'est quoi ces histoires-là ? C'est tout simplement, pour le dire de façon un peu abrupte et directe, la reformulation des principes tayloriens. Simplement, au lieu que ce soit des cadres, des ingénieurs qui pensent le travail à votre place, on vous fait penser le travail, mais dans une approche très particulière, c'est-à-dire avec des modes d'analyse du travail qui relèvent des dimensions gestionnaires, économiques et financières uniquement. Et par exemple, pour le dire, le lean, ça veut dire maigrir. Hein. En gros, c'est la même préoccupation qu'a Taylor, c'est comment faire des économies d'échelle à toutes les dimensions humaines, matérielles, etc., etc. Quand on vous dit qu'aujourd'hui, on a codifié le temps passé d'une infirmière avec un malade à 3 minutes et demie, et qu'en plus, ce sont les infirmiers eux-mêmes qui l'ont fait, mais ils ne pouvaient pas faire autrement vu les logiques analytiques qu'on mettait à leur disposition. C'est là où se situe le problème. Donc, c'est beaucoup plus... le mal est beaucoup plus profond que ça. Concernant les problèmes d'identité au travail, est-ce que et à quoi sert le travail pour l'homme dans son rapport à la société et à lui-même?
Et pour rebondir sur votre question, il y a une dimension culturelle aussi dans la réponse, c'est-à-dire que une question culturelle, une question de système, c'est-à-dire que on nous vend généralement, d'ailleurs de manière totalement non scientifique, le modèle espagnol, le mini job act italien, l'Allemagne, enfin. En oubliant d'expliquer d'ailleurs que le contexte économique, social, syndical, politique, l'organisation politique de l'État est totalement différente. Donc on va piocher des exemples à droite et à gauche pour vous dire « Tiens, ça marche, donc ça marchera chez nous. » La vraie difficulté, c'est que la logique dans laquelle nous évoluons a échoué à lutter contre un chômage endémique, le chômage des jeunes, la dualité du marché du travail, l'éducation a échoué, l'éducation initiale, en partie. On dépense des sommes colossales pour des résultats qui sont de moins en moins bons. La formation des adultes, qui absorbe des budgets colossaux, ne fait pas non plus son travail. Les services publics, le service public hospitalier, par exemple, pourtant, je sais que j'aime l'hôpital public, mais si vous avez malheureusement fréquenté l'hôpital public ces dernières années, vous avez pu comprendre à quel point l'assèchement des moyens en personnel et en matériel a rendu toute cette administration des hôpitaux totalement inhumaine et en grande partie inefficace. Donc on est dans un système dans un système ancien qui ne produit plus les effets escomptés. Et on est sans doute face à un système dans lequel on est inefficace. C'est-à-dire qu'on consacre des moyens collectifs considérables à l'éducation, à la formation, au travail, etc., à l'aide à l'emploi. Et à chaque fois qu'on fait ce type de réforme, on n'a pas les résultats escomptés. On n'aura pas moins de chômeurs avec la loi El Khomri, ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas produire moins de chômage. Et le problème, c'est qu'on a, il faudrait qu'on change de système. Mais pour changer de système, il faudrait que ce changement de système soit accompagné par un changement culturel, par un changement de mentalité, ce qui veut dire qu'il faudrait que les politiques portent un projet de société. Or, tout ce qu'on peut observer, c'est que la question du travail dans le discours politique, elle a disparu. Quand on voit qui on a choisi, je n'ai rien contre Mme El Khomri, hein, j'ai même publiquement pris position en faveur de sa nomination parce que je trouvais qu'il y avait, lorsqu'elle a été nommée, beaucoup d'a priori et pas forcément toujours les meilleurs hein, lorsqu'elle a été nommée. En plus, elle a été formée à Bordeaux, donc c'était une raison supplémentaire pour la défendre. Mais le choix de Mme El Khomri comme ministre du Travail est assez révélateur finalement du vrai centre de gravité, parce que qui a fait la réforme El Khomri ? Qui était le ministre que l'on voyait lors de la défense politique et publique du projet El Khomri, c'était M. Macron. C'est-à-dire que la réforme du droit du travail, elle s'est faite à Bercy. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de discours politique. Et l'une des raisons pour lesquelles les Français ont aussi mal réagi à la loi El Khomri, c'est précisément parce qu'on s'est aperçu qu'en réalité, cette vacuité du discours politique sur le travail avait dissimulé un changement idéologique de la gauche par rapport au travail et la conversion d'une partie de la gauche au discours néolibéral. Et là, les Français ont pris en pleine figure le fait que, ben, ils pensaient que la gauche, c'était encore les lois Auroux des années 80, avec une conception très interventionniste du législateur et un rôle très positif des accords collectifs qui pouvaient qu'améliorer la loi. Tout à coup, on s'aperçoit que cette gauche-là, que l'on pensait être au pouvoir depuis 2012, en réalité, s'était convertie au discours néolibéral et que l'État avait abandonné le projet de l'État-providence. Alors, il faut sans doute repenser le modèle social français. Mais le problème, c'est qu'il faut, pour le repenser, encore faut-il qu'il soit dans le débat public, que les Français soient informés. Les Français ne sont pas des enfants. Hein. On est tous capables d'entendre que ça va mal et qu'il faut se serrer la ceinture. C'est ce qu'on fait à la maison. Hein. Quand il y a de l'argent, on le dépense. Quand il n'y en a plus, on en dépense moins. Pourquoi est-ce que tout à coup, collectivement, on continuerait à dépenser autant d'argent alors qu'il n'y en a plus ? Il y a bien un moment, il faut dire les choses. Le problème, c'est que là, il y a effectivement une désertion du politique qui a laissé abdiquer complètement et qui renvoie la question aux partenaires sociaux. Parce que c'est ça aussi, c'est la patate chaude. C'est-à-dire que le fait de dire aux acteurs, vous allez négocier entreprise par entreprise, il y a à la fois, si au moins c'était assis sur un vrai discours, une vraie croyance que ça ira mieux. Mais il y a aussi effectivement le fait de se débarrasser de la question. Ça n'est plus de la responsabilité du Parlement, c'est de celle des partenaires sociaux. Si ça va mal, c'est à cause des partenaires sociaux. Et donc là aussi, c'est assez inquiétant parce que finalement, il y a l'abandon de cette idée que l'intervention de l'État peut apporter du progrès et peut apporter du mieux-être aux Français. C'est une question qu'on délègue.
Et avec cette idée aussi, un peu cynique, de penser que c'est au sein des entreprises que les régulations vont pouvoir se faire. Alors que, bon, les ouvriers, quand ils sont soumis à une insécurité au travail, à une peur du licenciement, à des menaces réelles, hein, même indirectes liées au licenciement, que voulez-vous qu'ils négocient s'il n'y a plus de cadre législatif, de cadre qui sécurise un peu les négociations. De ce point de vue-là, c'est assez cynique. On peut penser même hein, que c'est très cynique. Ce qu'on peut remarquer, on peut s'étonner aussi que quand même ces milliers, ces centaines de milliers de gens qui sont allés manifester dans la rue, ces mouvements spontanés, constituants, à travers les mouvements de Nuit Debout, on n'en a rien dit. Ça n'a pas été repris par les partis politiques. Là, il y avait un matériau en termes d'innovation, en termes de nouvelles idées, en termes d'évolution, en termes qui n'ont pas été repris par quelques partis politiques que ce soit, peu par les syndicats aussi. Alors que je pense que là, ce qui s'est dit, la parole collective qui a pu être énoncée est essentielle pour l'avenir de notre pays et des rapports sociaux. Rien. Silence absolu.
Oui. Moi, je crois qu'il y a plusieurs causes dans les choix du gouvernement par rapport à ça.
J'ai quand même l'impression qu'il y a la fascination du modèle anglo-saxon, même si ce n'est jamais formulé, parce qu'il y a une particularité du modèle anglo-saxon par rapport aux autres sur cette question. Si vous voulez, il y a un indice global de protection contre les licenciements calculé par l'OCDE. La France, bon, plus c'est élevé, plus il y a de protection des salariés. France, 2,9. Pays-Bas, 2,9. Allemagne, 3. Chine, 3,2. Italie, 2,8. Portugal, 2,7, etc. Inde, 2,6. Russie, 2,4. Et puis, OCDE en moyenne, 2,29. Et puis, il y a deux pays qui se caractérisent par une protection très faible. C'est le Royaume-Uni, 1,62, et les États-Unis, 1,17. L'ennui, c'est que les performances en matière d'emploi et en matière de chômage ne sont pas forcément le monopole des pays anglo-saxons. Et en plus, dans les pays anglo-saxons, il peut y avoir des contreparties qui ne sont pas forcément très formidables. Donc, je crois qu'il y a déjà ce point. Hein. D'autre part, il y a un oubli. Les périodes où la France a créé beaucoup d'emplois. Il y a quand même des périodes où la France a créé beaucoup d'emplois. Alors que le marché du travail n'était pas particulièrement flexible. Je vais prendre, si on prend la période 1998-2000, par exemple. Simplement, d'un point de vue macroéconomique, ça tournait bien. Macroéconomique, c'est l'ensemble de l'économie et pas seulement le marché du travail. Et à partir du moment où les chefs d'entreprise avaient des perspectives, avaient une certaine sécurité dans la réalisation de leurs projets, ils embauchaient, même si le marché du travail n'était pas particulièrement flexible. Je crois qu'il y a un point là qu'il faut garder présent à l'esprit. Je pense que c'est une facilité qui... Alors, cette facilité, elle s'explique peut-être. Elle s'explique peut-être par le fait que les gouvernements, et là je déborde la France, ont intériorisé le primat de la compétition entre États, à la fois sur le plan fiscal, c'est la concurrence fiscale, mais aussi sur le plan réglementaire, la concurrence à la déréglementation, sur le plan éventuellement environnemental, etc., etc. Je crois que les gouvernements, ils ont intériorisé ça, et chacun cherche à faire, au fond, plus que le voisin, ou en tout cas, de ne pas être pris de court par les initiatives du voisin. C'est une dynamique qui peut être catastrophique. En tout cas, moi, je sors du domaine, là. Moi, j'ai l'impression que les conséquences politiques peuvent être catastrophiques, parce que si on accepte l'idée qu'il faut qu'il y ait une insécurité pour que les gens soient efficaces, la généralisation de l'insécurité, ça peut avoir des conséquences politiques.
On peut le voir aussi sur le plan du management des entreprises et ce qui se passe au sein des relations sociales, des rapports sociaux dans les organisations. Les affres de la concurrence pour les places, la lutte à mort hein, autour des avancements, la compétition entre les personnels au sein des organisations. Il y a des anthropologues qui ont travaillé là-dessus depuis très longtemps, je pense aux travaux de René Girard, sur la rivalité mimétique. Et il faut savoir que c'est à la source de la violence relationnelle dans nos sociétés. Ça veut dire que ce que ce modèle privilégie, au fond, c'est la réactivation permanente de la rivalité mimétique entre les personnes. Alors s'il n'y a pas des lois, des règles, du tiers institutionnel qui régulent ces rapports-là, eh bien, il y a émergence des problématiques de violence relationnelle. Cette violence relationnelle qu'on tente en permanence de masquer. Je me rappelle qu'on a démarré, je démarrais pour l'Institut du Travail des conférences au début des années 2000 sur les problématiques de harcèlement moral. Ça a démarré là, à la fin des années 90, début des années 2000. Bon. À l'époque, on parlait de violence relationnelle au travail. Je crois que c'est Christophe Dejour qui avait proposé ce terme. Après, on a parlé de harcèlement au travail. Après, on a parlé de risques psychosociaux. Aujourd'hui, on parle de bien-être au travail. Donc, vous voyez l'euphémisation progressive qui sert à masquer, à invisibiliser la question du réel, de ce que ça produit sur le plan psychologique et psychosociologique. C'est très grave. Je veux dire, il ne faut pas être innocent par rapport à ça. Je veux dire, la façon dont on nomme les choses dit quelque chose des stratégies des acteurs sociaux. Pourquoi ne parle-t-on plus de violence relationnelle au travail? Puisque, de toute façon, c'est de ça dont souffrent les gens au quotidien. Quels que soient les mots que vous mettez, depuis 20 ans, le problème à l'intérieur des entreprises, à cause de cette concurrence qui relève de l'idéologie des lois du marché, hein, elle n'est pas traitée. Elle est déplacée, euphémisée, progressivement invisibilisée, etc., etc.
Et puis, juste un mot supplémentaire, c'est, parce que là, on parle du discours politique qui sous-tend la réforme, mais quand on observe la réforme dans sa réalité technique, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est ça où aussi c'est assez terrible de voir les crispations sociales autour de la réforme parce que le gouvernement a voulu absolument vendre une réforme idéologique. Et si on reprend les déclarations de Mme El Khomri, par exemple, au début de la réforme, elle expliquait qu'elle ne comprenait pas pourquoi les syndicats s'y opposaient, parce que plus de liberté, ça allait forcément apporter plus de progrès et plus d'emplois. C'était vraiment ce discours-là. Et puis quand on regarde finalement la loi du 8 août, quand on l'expertise, quand on l'analyse, au-delà des changements très formels de présentation des normes, c'est-à-dire ce qui est obligatoire, ce qui est négociable et ce qui s'applique à défaut d'accord collectif, hein, qui est la nouvelle présentation qui aurait vocation à se généraliser, en réalité, quand on s'interroge concrètement sur le bilan coût-avantage de la réforme en termes de droit, le bilan est très faible. Très, très faible. C'est-à-dire que c'est d'autant plus incompréhensible que toute cette réforme qui finalement a retiré de manière concrète très peu de droits aux salariés et qui même, sur certains points, leur en a apporté des nouveaux, cette réforme-là, elle a été vendue de manière totalement contre-productive sur le plan idéologique parce qu'elle a été présentée comme étant une réforme associant plus de liberté à plus de progrès, alors même que si vous interrogez notamment les vrais libéraux, ceux qui sont pour une vraie déréglementation du marché du travail, ils vont vous expliquer que c'est une plaisanterie, cette loi. Qu'en réalité, il faut aller beaucoup plus loin. Et ce qu'ils ont apprécié, et c'est la tribune des économistes dans Le Monde, par exemple, ce qu'ils ont expliqué, c'est que ça n'est que le début. Et s'ils ont salué la réforme, c'est parce qu'en réalité, cette réforme-là, elle accréditait, elle entérinait la victoire du discours libéral. Et c'est parce que les mentalités vont changer que derrière, les vraies réformes vont pouvoir avoir lieu. Et c'est aussi ça, je crois que ça a agité une espèce de menace collective sur le code du travail, sur le niveau de protection. Mais la loi en elle-même, si on veut vraiment être objectif, la loi en elle-même n'apporte pas de véritable régression massive en termes de droit. Simplement, elle ouvre des perspectives et elle intègre une logique qui, elle, est dangereuse. Je ne vais pas faire une liste détaillée, parce que je ne suis pas non plus là pour faire le service après-vente de la réforme. Je prends un exemple très simple qui est passé complètement à côté. Les congés pour événements familiaux. C'est vraiment l'exemple caractéristique. Le nombre de jours de congés que la loi reconnaît aux salariés pour un certain nombre d'événements. La plupart de ces congés ont été doublés. Alors, vous allez me dire, c'est symbolique. Mais précisément, puisqu'on en est à parler de symboles, c'est-à-dire que la loi El Khomri, qui a fixé les règles légales auxquelles on ne peut pas déroger, sur les congés pour événements familiaux, qui sont pourtant des objets de négociation par excellence, puisqu'on négocie beaucoup dans les branches ou dans les entreprises, mais la loi a doublé les jours. Le compte personnel d'activité, par exemple, alors qui est une usine à gaz, c'est-à-dire cette idée que le salarié, par son travail, va acquérir un certain nombre de jours, de temps qu'il va pouvoir consacrer par la suite à se former, etc., en cas de perte d'emploi. Cette idée d'une logique de carrière, si vous voulez, qui résiste au changement d'employeur, et cette idée que le salarié, même lorsqu'il est licencié, peut quitter l'entreprise avec un certain nombre de jours ou de droits, et que ces droits, il va les récupérer, ça va plutôt dans le bon sens. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on fait un bilan coût-avantage technique, et si on regarde ce qui a reculé en termes techniques dans la loi et ce qui a progressé, si j'étais trivial, je dirais, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais ce n'est pas ça que les gens ont rejeté. Ça n'est pas des, ce sont pas des, des. D'ailleurs, c'était il y a 100 et quelques pages dans le journal officiel. Personne n'a lu les 100 et quelques pages dans le journal officiel. Par contre, ce qui a fait réagir les gens, c'est le changement de discours. Voilà. Et c'est cette idée. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas réagir. Hein. C'est précisément parce que le gouvernement a situé la réforme dans le cadre d'un changement de discours qu'il y a eu une réaction politique. Et que les gens ont eu un réflexe politique, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont eu le sentiment qu'on était en train de changer de modèle sans leur dire. Et qu'on enfonçait un coin dans une perspective de réforme plus profonde, mais que cette réforme n'avait pas été discutée, et surtout qu'elle n'avait pas été précédée par un débat démocratique, puisque même si personne ne contestera la légitimité démocratique de ce gouvernement-là, en tout cas, le projet politique sur lequel il avait été élu n'était pas du tout en phase avec la réforme qui a été faite. C'est une vieille revendication du MEDEF que de demander aux législateurs d'en faire moins et de laisser plus de liberté aux entreprises. Donc ça va dans le bon sens pour le MEDEF. Ce que je veux dire simplement... Bien sûr, mais c'est une réforme qui s'inscrit dans un contexte néolibéral. Mais quand... au final, en termes de droit, le recul du législateur n'est pas aussi spectaculaire que, qu'on pouvait le craindre si on est du côté d'une conception de la loi qui défend, ou qu'on pouvait redouter si on est... ça n'a pas été très loin matériellement dans la réforme.
C'est une victoire pour l'entreprise, pour les entreprises, mais il faut aussi savoir ce qu'on entend derrière par entreprise. Pour les actionnaires d'entreprise, pas forcément pour les entrepreneurs, pour les gens qui travaillent dans l'entreprise. Hein, l'entreprise aussi, il faudrait... Qu'est-ce qu'on y met derrière, hein? Est-ce que l'entreprise, c'est un processus collectif dans le rapport au travail? Est-ce que c'est collectivement qu'une entreprise gagne, innove, etc. ou c'est juste réduit l'entreprise aujourd'hui à des dimensions purement financières et économiques? C'est aussi une certaine conception de l'entreprise qui est en train de gagner, hein, à travers ces réformes successives. Et pas forcément une conception que soutient les sciences humaines, la psychologie du travail, la psychosociologie, la sociologie clinique, par exemple, concernant les enjeux même de ce qui est l'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprise, concernant le rapport au travail et les processus de développement que l'entreprise permet. On pourrait dire que la conception qui est en train de... alors de gagner, ça j'en sais rien, parce que l'histoire n'est jamais écrite. Mais enfin, c'est celle du productivisme, hein, du début du XXe siècle. Améliorer, redesigner, relooker, etc. Bon. Sous des formes d'individualisation, alors bien sûr de précarisation, hein, des rapports de travail et du rapport au travail, mais aussi d'individualisation des rapports de travail.
Ce qui est sûr, c'est que la réforme de 2008 qui visait à sortir d'une logique traditionnelle où les syndicats représentatifs étaient en gros les syndicats affiliés aux cinq grandes confédérations choisies par les pouvoirs publics, avec une obligation de repasser par les scrutins et par les urnes pour avoir une légitimité électorale, ça traduit un changement culturel. Et les changements culturels, on sait très bien qu'ils mettent du temps avant de se réaliser. Et surtout, ils se réalisent plus ou moins vite en fonction du contexte. Je suis d'accord avec vous. Le contexte économique et social actuel dans lequel 9 personnes sur 10 qui entrent sur le marché du travail entrent dans le cadre de contrats précaires, on sait très bien que le salarié va passer 2 ans, 3 ans, 4 ans, dans le meilleur des cas, avec des contrats précaires, avant d'éventuellement passer dans le cadre d'un CDI. Et on sait très bien, alors c'est réel ou c'est fantasmé, mais peu importe, que le salarié en précarité ne va pas s'investir effectivement dans des activités de type syndical. Mais c'est pas vraiment le sujet. Il peut aller voter, le salarié. Le modèle de la démocratie sociale, qui consiste à demander aux acteurs syndicaux de passer par les urnes et d'y récupérer au passage une onction électorale minimale, 10% au premier tour, c'est pas grand-chose. Ça, c'est quand même plutôt quelque chose de positif. Alors après, bien évidemment, on peut se demander ce que ça veut dire et si, au final, les syndicats, aujourd'hui, en 2016, incarnent et portent les valeurs et les aspirations des salariés. Est-ce que la réforme de 2008... d'un coup de baguette magique à modifier le comportement, la psychologie, les aspirations, les luttes des syndicats français? Bien sûr que non. Ce sont les mêmes acteurs. D'ailleurs, souvent, Il y a quelques syndicats qui ont émergé, d'autres qui ont disparu, mais on sait par exemple que les 5 grandes centrales syndicales d'avant 2008 restent les 5 grandes centrales syndicales d'après 2008. Au niveau interprofessionnel, ce sont toujours les mêmes qui sont là. Donc il va falloir du temps pour que tout ça fonctionne. C'est pour ça que demain, on n'aura pas le plein emploi parce qu'on a modifié la représentativité syndicale. Ça n'a rien à voir, en fait. On le sait bien. Alors, il y a dans la loi El Khomri un certain nombre de dispositions, notamment la possibilité au niveau des branches professionnelles d'adopter des accords types qui pourraient s'appliquer dans les petites entreprises. Mais la loi le prévoit, si vous voulez. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, la loi prévoit qu'à défaut d'accord d'entreprise, on appliquera des accords de branche, c'est-à-dire des accords qui sont négociés par secteur d'activité au niveau des branches. Alors, il y a aussi dans la loi El Khomri la réorganisation des branches, c'est-à-dire qu'il y ait, en gros, d'ici 2 ou 3 ans, 200 branches professionnelles, alors qu'aujourd'hui, il y en a à peu près 900, dont 350-400 sont actives. Donc, on veut également renforcer la négociation de branches, notamment pour faire en sorte que dans les TPE, où il n'y a pas de représentation syndicale et pas d'accord collectif, où on puisse appliquer des normes qui soient négociées au niveau de la branche. Voilà. Mais tout ça aussi, on avait une négociation de branche qui, dans beaucoup de secteurs d'activité, était à bout de souffle. Parce que construit sur un modèle qui a été inventé en 1936. Voilà, on a sans doute tardé à faire les réformes, ça c'est sûr. Alors, la réforme a été faite en 2014 pour ce qui est des syndicats d'employeurs, enfin des organisations d'employeurs, puisqu'ils sont eux-mêmes soumis à une exigence d'audience. Alors, sauf que pour les entreprises, l'audience, ça se vérifie par rapport au nombre d'adhérents et par rapport au nombre d'entreprises représentées, pas par rapport aux résultats électoraux, puisque par hypothèse, il n'y a pas d'élection professionnelle pour les employeurs. Les seules qui existaient, c'est les élections prud'homales, mais vous savez, il n'y aura plus d'élections prud'homales, puisque désormais, les conseillers prud'hommes ne seront plus élus, mais ils seront désignés par les syndicats. Donc il y a effectivement aussi la recherche d'une meilleure représentativité patronale. Donc la réforme a été faite en 2014, mais vous voyez que tout ça, c'est très frais pour avoir suffisamment... On n'a pas encore suffisamment de recul pour savoir si tout cela va permettre de reconfigurer le jeu des acteurs.
Pour changer de registre, mais sur la question de la représentativité, et pour aller vite, parce que je crois que le temps nous est compté de la conférence, moi, je voudrais dire quand même deux, trois mots sur les mouvements de Nuit Debout, quand même, qui a mobilisé énormément, qualitativement, je ne dis pas quantitativement, mais qualitativement. C'est quand même le signe d'une vitalité sociale forte. Et autour, je crois, d'une question essentielle concernant la question de la démocratie représentative, c'est l'émergence du questionnement même de l'efficacité de la démocratie représentative. Et la tentative dans ces mouvements... de réactualiser, si jamais elle a existé, la démocratie participative directe. Voilà. Et je pense que s'il y a des pistes d'innovation, des pistes d'avenir au niveau social, au niveau sociopolitique, c'est peut-être d'essayer de creuser ce sillon. On voit qu'aujourd'hui... les représentations de l'autorité verticale, qu'elles soient représentatives ou charismatiques, ça ne fonctionne plus auprès d'un grand nombre de personnes et que les gens ont envie de participer directement aux décisions qui concernent le niveau collectif, hein, plutôt que d'avoir des représentants. Alors bien sûr, les choses doivent se faire progressivement. Et je pense qu'il y a des situations de compromis, hein, des organisations de compromis à mettre en place. Mais moi, je suis sidéré par le fait que rien de ce qui a pu émerger au cours de ces foisonnements d'idées, de ces réunions, de cette expérience-là, peut-être brève, mais réelle, d'émergence d'une forme de démocratie directe et participative, n'est pas été reprise. Par les différents responsables, que ce soit politique. C'est la même chose au sein des organisations. Et depuis très longtemps, les ouvriers, malgré la mode du management participatif, ne participent ou n'ont-ils jamais participé aux décisions qui concernaient le niveau collectif, le niveau de la stratégie des organisations. C'est peut-être ça aussi qui pose problème profondément au début du XXIe siècle.
Si vous avez... Oui, moi je voudrais ajouter qu'il y a une tendance à la recherche d'une flexibilité des marchés du travail probablement liée à l'évolution de l'organisation économique, l'évolution du capitalisme, qui va dans le sens de la volatilité, à mesure que la finance joue un rôle accru dans le système économique. Et il n'est pas exclu que ce soit, de manière sous-jacente, l'explication à l'obsession de la flexibilité sur le marché du travail. Mais ce que je crois, c'est que c'est un choix qui est voué à l'échec, dans la mesure où ça ne correspond pas à un certain nombre de besoins manifestement importants au sein de la population. Et par ailleurs, un certain nombre d'études sur les liens entre flexibilisation et performance sur l'emploi montrent qu'il n'y a pas, le moins qu'on puisse dire, qu'il n'y a pas de lien évident.
C'est purement idéologique.
Jardin, c'est l'expression vraiment de cette aspiration à une démocratie locale, directe, ancrée dans le sol, hein, et pas hors sol, déterritorialisée. Et il n'y a pas que Jardin, il y a un foisonnement, il y a émergence de tout un tas de formes organisationnelles de ce type-là, et qui, malgré leur désorganisation patente, leur manque de continuité, le fait qu'elles vont se confronter aux mêmes problèmes de rapport de pouvoir, de conflits, mais sont pour moi un signe d'optimisme. Je voulais quand même insister, parce qu'on est dans quand même une dimension psychique collective un peu catastrophique en ce moment, hein, sur le fait que même ces initiatives qui sont pas quantitativement importantes sont des lumières, hein, dans l'obscurité, et peuvent nous servir de guide. Je pense qu'il faut pas lâcher le morceau de ce point de vue-là. Il faut s'engager relativement et les jeunes au fait de faire émerger de nouvelles formes de rapport à la société, de nouvelles formes de rapport au pouvoir, de nouvelles formes de rapport à la mondialisation, qui ne soit pas uniquement une mondialisation économique. Hein. Les enjeux écologiques, l'écologie humaine, hein, sont d'importance. Hein. Donc, il ne faut pas mollir de ce point de vue-là. Hein. Et il faut encourager toutes ces prises d'initiative, même si elles ne sont pas relayées ou instituées. Mais elles ne sont pas faites pour être instituées.
Nous clôturons donc sur cette lueur d'espoir, on peut dire. Donc, je vous remercie tous pour votre participation, notamment. Oui. Je participe également les intervenants. Je remercie également la librairie Mola et l'Université de Bordeaux.